Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois Christiane Rancé, grand reporter, essayiste, titulaire en 2015 du prix de l'essai de l'Académie française pour la passion de Thérèse Davila et collaboratrice du journal La Croix. Bonjour Christiane Rancé.
Bonjour.
Je voudrais justement que nous parlions de ce livre qui est reparu en poche dans la collection Espace Libre de Albin Michel. Expliquez-nous qui est Thérèse Davila.
Alors, c'est une femme merveilleuse qui naît en Espagne au début du XVIe siècle, à Avila, comme son nom l'indique, et qui va être une sainte canonisée, là, une des plus grandes saintes de l'Église catholique.
Et quel est le rapport des gens à la religion au XVIe siècle ?
Alors en Espagne, là, évidemment, il y a une catholicité, un catholicisme qui est extrêmement fort, mais il y a aussi de grands mouvements, de grands tremblements. C'est le siècle de la Réforme, c'est le siècle aussi de découvertes qui sont terribles pour toute l'Europe, à savoir la révolution copernicienne, qui explique, qui fait la preuve que le monde n'est plus immuable, que Dieu n'est plus le centre du monde et que la Terre n'est plus le centre de l'univers. Nicolas de Cuse fait aussi une découverte où il parle de la corruption, c'est-à-dire les astres aussi meurent. Et puis, il y a aussi cette notion d'infini. L'éternité n'existe plus, mais c'est l'infini qui le remplace. Donc, pour toute l'Europe à ce moment-là, il y a une espèce d'effroi terrible, parce que c'est l'ordre ancien qui a disparu. Le XVIe siècle est le premier siècle de l'ère moderne. Et Thérèse Davila naît dans ce siècle de très très grande inquiétude. Donc il y a une espèce de craquement général et puis il y a un craquement géographique. À savoir que tout d'un coup, on a découvert l'Amérique, on découvre le Japon, il y a une dilatation absolument de tout et la foi vacille. L'Église est très attaquée.
Alors Thérèse Davila, c'est aussi une mystique. Donc elle rentre dans les ordres, c'est l'histoire d'une vocation pour elle.
Alors c'est une vocation formidable parce que c'est une vocation qu'elle va forcer. C'est en ça aussi que Thérèse Davila est exceptionnelle, c'est qu'elle va rentrer dans les ordres parce qu'elle ne veut pas se marier. Sa mère meurt, elle est très jeune, elle est un petit peu à la tête de la famille et elle voit sa sœur aînée qui a été mariée, elle, et qui est mariée comme on l'était en Espagne, c'est-à-dire recluse dans sa propriété. Et comme elle a un esprit très frondeur, elle fait le mur à 15 ans. Son père a très très peur pour elle. Elle sort avec ses cousins, elle fait la fête. On raconte qu'elle sort avec des jupes rouges en faille de soie. Elle se fait tout à fait remarquer. Donc son père, une première fois, la met au couvent pour la faire un petit peu oublier de la ville. Et au couvent, elle va lire, elle va tomber sur les œuvres, les premières œuvres qui sont traduites en espagnol. Il faut savoir qu'Isabelle, la catholique, a fait traduire en espagnol toutes les œuvres en latin parce que les femmes étaient interdites d'apprendre le latin.
Donc c'est pour l'Espagne à cette époque-là ?
Ah ben ça, je parle de l'Espagne. Hein. Donc elle est en Espagne et elles n'avaient pas le droit d'apprendre à lire, mais en plus de ne pas apprendre le latin. Mm-hmm. Elle, Thérèse, apprend à lire par-dessus l'épaule de ses frères, mais donc elle va découvrir cette œuvre et elle va être profondément remuée. Elle va traverser une crise un peu une espèce de dépression. Puis elle va décider, contre l'avis de son père qui a besoin d'elle pour tenir le ménage, d'entrer dans un couvent. Et là, elle va rentrer au couvent, mais bon, on peut pas dire non plus, on sait que c'est surtout pour se protéger du mariage, puisque une femme ne pouvait pas vivre seule hors d'un mari ou hors de l'Église. Et donc, c'est pour se protéger du mariage, mais elle va essayer, elle va avoir une première porosité à la religion, à la présence de Dieu. Elle va essayer de croire et elle va avoir beaucoup de mal au début puisqu'elle va rentrer à peu près à 20 ans au couvent et elle va avoir cette révélation à 40 ans. Entre-temps, elle rentre dans ce couvent du Carmel qui était ce qu'on appelait à l'époque, en plus des maisons où on recevait les jeunes femmes qui avaient une dot. En plus, il fallait avoir une dot et pour les protéger du monde extérieur puisque beaucoup d'hommes étaient partis à la conquête de l'Amérique. Et donc, il y avait beaucoup de jeunes femmes célibataires qu'on mettait à l'abri. Mais dans ces couvents, on continuait à vivre une vie extrêmement mondaine. Les femmes sortaient pour aller au théâtre. Elle-même va aller au parloir, va recevoir des visites. Elle va même tomber amoureuse. Elle va avoir un ami de cœur, et il lui sera très très difficile de renoncer à cette affection, comme elle le
dit. Alors, Thérèse Avila, c'est une religieuse, mais comme vous dites, elle a un rapport quand même assez charnel à la vie, et on le voit dans la transverbération. Alors, qu'est-ce que c'est la transverbération exactement ?
C'est le fait d'avoir le cœur transpercé, ça vient du latin transverberere, qui veut dire transpercé. Et Thérèse d'Avila, qui va donc arriver à rentrer en prière, qui va commencer à prier parce que elle ne doute jamais de Dieu, elle doute d'elle-même. Elle va faire tous ses efforts pour essayer de se rapprocher du Christ. Et dans une de ses prières, elle va tout d'un coup entrer en extase et elle va recevoir la visite, dit-elle, elle le raconte très bien dans le livre de sa vie, elle va recevoir la visite d'un ange, armé d'une longue flèche, le bout de la flèche est brûlant et qui va lui transpercer le cœur. Et elle va ressentir, dit-elle, à la fois dans son extase une intense douleur et un intense plaisir. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que on va déterrer plusieurs fois le corps de Thérèse d'Avila, on va aller chercher son cœur bien quelques années après sa mort, et on découvrira que ce cœur qui est exposé à Alba de Tornes, là où elle va mourir, a effectivement une cicatrice principale et plein de petites cicatrices autour. Une cicatrice qu'on ne s'explique pas, comme si le cœur avait été brûlé.
Aucun médecin n'a osé dire que c'était une cardiopathie, une maladie congénitale ou que sais-je.
Si, bien sûr, parce que le monde moderne est extrêmement...
cartésien.
A des gros problèmes avec le mystère. Donc, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les hypothèses fournies par le corps médical sont tout aussi peu vérifiables que la vérité de l'expérience mystique qu'a vécue Thérèse d'Avila. Mais il faut comprendre ce à quoi peut amener une prière.
Alors, Thérèse d'Avila donc, a un rapport au divin qui est quand même très particulier, puisqu'elle a ses trans. Elle a eu des problèmes avec l'Inquisition. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'Inquisition et la nature des problèmes qu'elle a eu avec elle ?
Alors, l'Inquisition, c'est un tribunal qui a été mis, c'est un tribunal éminemment religieux, exclusivement religieux au départ, qui a été créé au XIIIe siècle, ne traite que de droit canon et qui est exercé par l'Église pour des catholiques qui seraient hérétiques, qui ont des problèmes avec le dogme. L'Espagne a demandé, et le Portugal, au moment de la Reconquista, au moment où il y a ce désir, comme il faut penser à l'Ukraine aujourd'hui, il y a ce désir de reconquérir un royaume qui est occupé par des étrangers et qui est occupé par une religion qui n'est pas le catholicisme. Donc l'Espagne décide à demander au pape la possibilité d'exercer juridiquement, civilement, donc un droit de condamnation, un droit de jugement. Et l'Espagne va s'occuper de juger ce qu'on appelle les maranes, c'est-à-dire les juifs faussement convertis, c'est-à-dire qui disent qu'ils sont convertis mais qui continuent à pratiquer chez eux. Il faut dire que Thérèse d'Avila a un ancêtre juif, était marane elle-même, et puis les morisques, c'est-à-dire les musulmans qui font semblant de se convertir, parce qu'il s'agit effectivement de redonner à l'Espagne l'unicité de sa religion.
Et donc, elle a des problèmes parce qu'elle a des ascendances juives ?
Non, elle a des problèmes parce qu'elle voyage. Elle décide donc de réformer le Carmel. Elle trouve que les mœurs pratiquées dans l'Église sont une atteinte à la dignité du Christ. Elle a cette première révélation à 39 ans exactement. Elle voit une statue du Christ flagellée et elle se dit « Mais voilà ce qu'il a souffert pour nous et moi je ne suis même pas capable de prier, de vivre comme une religieuse. » Donc elle décide de réformer l'ordre, de créer des couvents dans lesquels on ne recevra pas complètement fermé à l'intérieur de la ville. Et elle écrit sa vie. Alors déjà, elle voyage, qui est interdit pour les femmes. Elle écrit, ce qui est encore plus interdit aux femmes. Elle écrit avec une liberté absolument incroyable. Il faut dire qu'elle a beaucoup d'humour, qu'elle est très très insolente. Et donc, elle présente un danger pour l'Inquisition. Et surtout, dans le château intérieur, qui est son chef-d'œuvre, elle va développer une doctrine qui va faire qu'on pense qu'elle est hérétique et qu'il faut la brûler, à savoir... ce château intérieur, cette possibilité d'intérioriser Dieu. J'ai parlé tout à l'heure de la révolution copernicienne. Puisque Dieu n'est plus le centre du monde, eh bien, on peut le remettre au centre du monde en le mettant au centre de son âme.
Donc, on a une femme qui est en train de conceptualiser quelque chose de l'ordre de la religion. Sainte Thérèse de Lisieux et Mère Teresa ont fait un petit peu comme elle. Elles ont écrit, elles ont réformé un peu l'Église à leur manière. Enfin, moins Sainte Thérèse de Lisieux que Mère Teresa. Est-ce que, d'une certaine manière, Sainte Thérèse d'Avila est un peu la grand-mère spirituelle de Sainte Thérèse de Lisieux et de Mère Teresa?
Bien sûr, si elles se sont appelées Thérèse, c'est pour ça. Sainte Thérèse de Lisieux, c'est Thérèse de Jésus et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc il y a effectivement une maternité de ces femmes à l'autre. Elles sont toutes... Alors Thérèse de Lisieux n'a pas réformé son propre ordre, mais Mère Teresa a effectivement créé des congrégations, créé un ordre de charité. Donc elles sont dans la droite ligne spirituelle et de Sainte Thérèse d'Avila.
Alors, une dernière question pour conclure très rapidement. Thérèse d'Avila est devenue docteur de l'Église. C'est très rare pour une femme. Et qu'est-ce que ça signifie?
Alors, c'est Paul VI va déclarer Sainte Thérèse d'Avila docteur de l'Église en 1970. Ça va être la première femme à avoir cet honneur. Alors, qu'est-ce qu'un docteur de l'Église? C'est quelqu'un qui est reconnu, il faut qu'il soit saint, dont l'Église reconnaît l'autorité spirituelle en matière d'enseignement, en matière d'exemple, par sa foi, par sa vie ou par ses écrits. Une autorité doctrinale, on va dire. C'est quelqu'un qui va apporter à la doctrine de l'Église un nouveau regard et une nouvelle profondeur.
Merci Christiane Rancé, c'était absolument passionnant. Donc je recommande votre livre, La Passion de Sainte Thérèse, qui a reçu le prix de l'essai de l'Académie française et qui est reparu en poche dans la collection Espace Libre de Albin Michel. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur votre plateforme de podcast préférée et mettez-nous des étoiles, nous ça nous fait plaisir. À bientôt au cœur de l'histoire.